الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges vont à Allah, l'unique, sans associé. Il est le puissant, celui qui pardonne. Nous louons le Très-Haut d'une louange renouvelée, matin et soir. Nous remercions le Très-Haut pour tous ses bienfaits et nous lui demandons de nous combler d'encore plus de ses bienfaits. J'atteste qu'il n'est de divinité que Allah, l'unique, sans associé. Allah est celui qui connaît le visible et l'invisible. Et j'atteste que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé et serviteur. Il a transmis le message et a accompli la mission que son Seigneur, le Très-Haut, lui a confiée. Que les prières et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, redoutez Allah le Très-Haut. Adorez-le comme il le mérite. Rappelez-vous en permanence de ses bienfaits et soyez reconnaissants. Rappelez-vous également de la manière avec laquelle vous êtes apparus sur cette terre et comment vous disparaîtrez. Vous découvrirez alors les marques de votre Seigneur ainsi que sa grandeur. Allah a créé notre père Adam, alayhi salatu wassalam, à partir d'argile. Et il a créé sa descendance à partir d'un liquide impur. Il a placé les hommes dans le ventre de leur mère et il leur a insufflé leur âme dans le ventre de la mère. L'embryon évolue en 4 phases. Pendant 40 jours, il est une substance liquide. Puis, pendant 40 jours, il est une adhérence, un caillou de sang. Puis, pendant 40 jours, il ressemble à une substance mâchée. Cette période couvre donc 120 jours, c'est-à-dire 4 mois complets. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour lui insuffler l'esprit. Cet ange est aussi chargé d'écrire ses biens futurs, ses moyens de subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, son destin, qu'il soit heureux ou malheureux. Il reste dans le ventre de sa mère le temps que Allah a voulu qu'il y reste. Puis, Allah le fait naître dans cette vie d'ici-bas. Il demeure dans ce bas-monde le temps que Allah a décrété qu'il y demeure. Il ne peut ni avancer le départ de cette vie, ni la retarder. Puis, il quitte cette vie, qui est l'endroit du travail pour l'au-delà, qui est l'endroit des récompenses pour le travail accompli. Et lorsqu'il meurt, ses œuvres terrestres sont toutes bloquées, sauf les 3 suivantes. Une aumône permanente, une science utile, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Il reste alors dans le monde de la tombe, Al-Barzakh, jusqu'au jour dernier. En effet, Al-Barzakh exprime la période qui va de la vie de la personne jusqu'au jour dernier. Ce jour-là, les gens se lèveront tous de leur tombe pour le Seigneur des mondes, le corps nu de tout vêtement, les pieds déchaussés et le regard hagard. Allah décrit certaines personnes ce jour-là dans le Coran. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu vers celui qui les appelle. Les non-croyants diront « Voilà un jour pénible ». Allah, le Très-Haut, dit encore à propos du jour dernier « Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. » Dans un autre verset, il, le Très-Haut, dit « Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. » Mon frère, ma sœur, lorsque tu passes de ce bas monde à l'au-delà, tu vas te retrouver dans l'une des 3 situations que Allah, le Très-Haut, a décrites dans le Coran. Allah dit à propos de nous, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il fait partie des gens du côté droit, il sera accueilli par ces mots, salut à toi, de la part des gens du côté droit. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Cela est une vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, qu'il nous place parmi ses rapprochés, ceux qui auront du repos, de la grâce et un jardin des délices. Mes frères, dans la foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré de manière très claire et très détaillée tous les événements qui surviennent après la mort et dans la tombe. Le compagnon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu raconte: nous sommes sortis vers le cimetière de Médine, Al-Baqi'a, à l'occasion d'un enterrement en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous étions tellement concentrés et calmes que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Il sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva la tête et dit: demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il quitte ce monde pour l'au-delà, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. Leur visage est tellement resplendissant qu'il est comparable à un soleil. Ils apportent avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Ils s'asseyent avec lui. Les anges sont alors tellement nombreux qu'il y en a partout où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort. Il s'assoit auprès de sa tête et dit: ô âme pure, sors pour jouir du pardon et de l'agrément d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajoute: l'âme s'écoule et sort aussi facilement qu'une goutte qui échappe de la bouche d'une carafe. L'ange de la mort la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents s'en saisissent tout de suite. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors d'elle un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue: les anges montent alors en l'emportant. À chaque fois qu'ils passent près d'un autre groupe d'anges, les membres de ce groupe demandent: quelle est donc cette âme pure? Ils répondent alors: il s'agit d'un tel, fils d'un tel. Et il la nomme en citant les plus beaux noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Les anges arrivent avec cette âme au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est immédiatement accordée. L'accueillent alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant, jusqu'à ce qu'elle parvienne au septième ciel. C'est alors que Allah le Très-Haut dira: consignez les Écritures, ses actions dans ce bas monde, de mon serviteur, dans le livre cacheté réservé aux rapprochés d'Allah, c'est-à-dire le livre des bons serviteurs. Et ramenez-le à la terre, parce que c'est d'elle que je l'ai créé, c'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua: son âme est donc ramenée à son corps. Deux anges viennent alors, le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il réplique: ma religion est l'islam. Il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit: il s'agit du messager d'Allah. Il lui demande enfin: et comment es-tu au courant de ce que tu affirmes? Il répond: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté de sa véracité. Un appel est alors lancé du ciel: mon serviteur a dit vrai. Tapissez donc le paradis pour lui, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajoute: et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé vient auprès de lui et lui dit: prépare-toi à recevoir la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'avait été promis. Le défunt lui dit alors: qui es-tu, toi qui as un visage qui présage du bien? Il répondra: je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Le défunt dira alors: ô mon Seigneur, fais vite venir la fin des temps, afin que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: et le serviteur non croyant, lorsqu'il quitte ce bas monde pour l'au-delà, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui, avec un linceul et une odeur provenant de l'enfer. Ils s'asseyent avec lui, Ils sont tellement nombreux qu'il y en a jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort. Il s'assoit auprès de sa tête et dit « Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'âme se répand alors partout dans son corps et il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne le laissent pas entre ses mains un instant. Il la porte à leur tour et la pose dans ce linceul à l'odeur nauséabonde. » Émane alors de cette âme une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Les anges montent alors en l'emportant. À chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, les membres de ce groupe disent « Quelle est donc cette âme répugnante ?» Ils répondent alors « C'est tel, fils d'un tel. » Et ils la nomment en citant les pires noms par lesquels on le désignait dans ce bas monde. Ils arrivent avec cette âme au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est refusée. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, récite alors le passage du Coran suivant. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Allah le Très-Haut dit alors, consignez ses écrits, ses actions dans ce bas monde, de mon serviteur dans le livre cacheté réservé aux éloignés d'Allah, c'est-à-dire le livre des serviteurs non-croyants. Et ramenez-le à la terre la plus basse. Son âme est alors jetée. Puis le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, récite un autre passage du Coran. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans une abîme très profonde. Son âme est donc ramenée à son corps. Deux anges viennent alors et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Et il ne pourra pas répondre. Il lui demande ensuite « Quelle est ta religion ?» Et il ne pourra pas répondre. Et il le questionne encore « Qui est l'homme qui a été envoyé vers vous ?» Et là encore, il ne pourra pas répondre. Un appel est alors lancé du ciel. « Mon serviteur a menti. Tapissez donc l'enfer pour lui et ouvrez-lui une porte vers le feu. » Lui parviennent alors les effets de la chaleur de l'enfer, ainsi que son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Un homme au visage laid, mal vêtu et à l'odeur répugnante, vient alors auprès de lui et lui dit « Prépare-toi à recevoir une nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. » Le mort lui dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de quelqu'un qui apporte le mal. » Il répondra « Je suis la matérialisation de tes mauvaises actions. » Le mort dira alors, « Ô mon Seigneur, ne fais pas venir la fin des temps afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas à supporter des tourments encore plus terribles. » Le compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu raconte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quand un fidèle serviteur est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont et qu'il entend encore le bruit de leurs pas, deux anges se présentent à lui. » Il le questionne comme décrit dans le précédent récit. Puis ils disent « Regarde l'endroit qui t'était réservé en enfer. Allah te l'a remplacé par un endroit au paradis. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il voit alors les deux endroits. » Mes frères, mes sœurs, redoutez Allah. Préparez-vous pour cette étape grandiose que sera la tombe. Demandez au Seigneur de vous protéger des supplices de la tombe. Je demande à Allah le Très-Haut que vos tombes, ainsi que la mienne, soient un jardin parmi les jardins du paradis. Allah le Très-Haut dit, « Ô vous les croyants, redoutez Allah comme il doit être redouté, et ne mourrez qu'en état de pleine soumission, c'est-à-dire en étant musulman. Sachez que vous ne resterez dans cette vie qu'un moment, un court instant qui va vite nous emmener tous vers l'au-delà. Et chaque jour qui passe pour l'homme est décompté de son temps de vie, jusqu'à ce qu'il vive le temps que Allah a voulu qu'il vive. Et nul ne connaît le jour de sa fin. Alors, si tu es en vie, le matin, n'attends pas le soir. Si tu es en vie le soir, n'attends pas le matin. Profite des périodes de bonne santé pour combler les périodes de maladie. Et profite de ta vie avant ta mort. Mes frères, mes sœurs, le souffle de la vie s'arrête quoi qu'il en soit. Et la période de la vie terrestre n'est qu'une période très courte. Mais Allah a comblé cette communauté par des immenses bienfaits. Et celui qui fait une bonne action, Allah le récompensera comme s'il avait accompli entre 10 et 700 bonnes actions, et bien plus encore. Alors redoutez Allah, serviteur d'Allah, et remplissez votre temps dans l'obéissance de votre Seigneur. La vie est une période courte et éphémère, mais ô combien bénie si elle est passée au service d'Allah, dans les actes que le Seigneur agrée. L'homme intelligent est celui qui passe son temps à vouer son culte à Allah l'unique, dans l'intention de se rapprocher de lui. Il prononce le nom d'Allah avant de manger, et il loue Allah après avoir mangé. Et par cela, il obtient la satisfaction d'Allah, comme celui qui est décrit par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole suivante. Allah accorde sa satisfaction à quelqu'un pour la seule raison qu'il remercie Allah après avoir mangé ou bu quelque chose. Quant aux distraits, ils négligent toutes ces choses. Ils mangent et boivent comme mangent et boivent les animaux. Alors redoutez Allah, ô serviteur d'Allah. Ayez une intention pure et sincère pour Allah, dans toutes vos paroles et dans tous vos actes. Que votre intention soit de vous rapprocher du Créateur, le Très-Haut. Et si vous agissez de la sorte, vous ferez partie des gens que Allah décrit dans le Coran de la manière suivante. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur les côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Ceux-là invoquent Allah dans toutes les situations, car ils s'appliquent à faire en sorte que tout ce qu'ils disent ou font soit pour se reprocher d'Allah le Très-Haut. C'est ainsi que leur vie se retrouve entièrement dévouée à Allah. Quant à celui qui oublie Allah, il passe à côté d'une multitude de bienfaits. Il se peut que son adoration soit une habitude ou un héritage reçu de ses parents, et non un moyen de se rapprocher de son Seigneur. Il y a une grande différence entre la première catégorie de serviteurs et la deuxième. Je demande à Allah le Très-Haut qu'il vous fasse, ainsi qu'à moi-même, des gens qui dépensent leur temps dans son obéissance et qui ont comme but d'être ses rapprochés. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair pour votre écoute.